pour Couleur FM, avec nous en direct du Festival Interceltique de Lorient, le directeur général Lisardio Lombardia. On est ravis donc de l'avoir avec nous. Et globalement, il va nous présenter le festival, une présentation de son parcours, de qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là, et ensuite les idées directrices du festival et les idées principales qui le font évoluer dans les années. Donc tout d'abord, on vous remercie de nous accueillir pour cette interview. En quelques mots, le Festival Interceltique de Lorient, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Bon, le festival, c'est une manifestation culturelle qui est née en 1971. Nous sommes déjà dans la 43e édition cette année. Et c'est un festival qui est né autour du concours national des Bagadous. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un concours national pour les Bagadous qui s'est passé à Brest pendant une quinzaine d'années à peu près. À un moment déterminé, à Brest, il avait autant peut-être beaucoup d'intérêt de continuer, même s'il avait eu des travaux en ville qui empêchaient qu'en 71, et au moins théoriquement, les concours national des Bagadous s'est passé là-bas. Donc, un peu en catastrophe, le président des BAS à l'époque, Paul Limogéry, a dû chercher un endroit pour célébrer son concours et les manifestations qui enrichissaient déjà à l'époque et les concours nationaux de Bagadou. À ce moment-là, comme il avait été pleumeur, pas très loin d'ici, et donc il a proposé au président des comités de fête locales à l'époque, qui s'appelait Pierre Gagadic, d'accueillir la manifestation. Et Pierre Gagadic, qui était habitué plutôt, comme il l'a dit toujours, au cours des concours des trottinettes et même des parades avec des majorettes, c'est pas du tout un rime cherché. Donc finalement, il s'est dit ok, je m'engage, j'accueille le festival de Bagadou cette année, parce qu'il savait qu'on était déjà avant, l'année avant, une petite fête qui s'appelait la fête du port, la fête à Lorient. Donc voilà, il s'occupe pour la première fois la championnat national de Bagadou, c'est un grand succès. Et déjà avec des invités venus de l'étranger, des Cornouailles britanniques en concret, déjà des Pays Galles, je crois, quelques ans. Et donc tout à coup, déjà l'année suivante, le festival des Cornemus, c'était le nom, passe à être le festival interceltique de Cornemus à partir de l'année 72. Et avec l'évolution et avec l'arrivée de Jean-Pierre Pichard en 1972, ça accélère normalement toutes les ambitions artistiques. Et à partir des 76, le festival devient le festival interceltique de l'Orient, tout simplement. Mais avec la présence, déjà cette année-là, de la majorité des pays celtiques que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que la Galice arrive en 76, avant d'être venue déjà la Cornouaille, l'île des Mans, le Pays des Galles, l'Irlande, l'Écosse. Et finalement, des années plus tard, 9 ans plus tard, en 1985, c'est les Asturies qui arrivent pour la première fois avec une délégation. Et en 87, déjà, se formalise cette organisation composée des 8 régions ou pays celtiques de l'arc atlantique européen. Voilà notre histoire. Donc, pendant ces années, il y a eu beaucoup de périodes différentes. La première de toutes, c'était la découverte des uns et des autres, les années 70. À partir des années 80, c'était les années qui ont commencé déjà les expériments, les passerelles, les créations, de faire travailler les uns avec les autres. Et finalement, à partir de 90, c'était véritablement, le Festival de l'Orient passe à être un festival de création. Un festival de création où il y a la prise de risque, donc de proposer des concerts, de s'intégrer dans notre programmation et d'avancer vers l'avenir. C'est aussi les années 90 que le festival s'exporte, s'installe à Paris avec la Saint-Patrick. Et donc, d'abord, c'était la Villette, c'était des différents petits papes tout au début des chœurs de Paris. Et comme ça, le festival commence à avoir une vitrine extérieure à Paris qui permet l'identification du festival et surtout d'attirer l'attention des publics et des médias. Et une fois que ces concerts de la Saint-Patrick se consolident d'une façon extraordinaire à Paris, et surtout notamment quand on arrive à l'année 2002, que le festival organise la première grande nuit interceltique à Paris, au Stade de France, ouais. Le festival, disons que est définitivement reconnu, installé dans les paysages de la culture française en France. Ouais. Mais
c'est à partir de ce moment-là qu'il s'installe profondément dans le paysage médiatique français.
Ouais. À mon avis, oui, c'était à partir des années la moitié des années 90 en concret, mais surtout à partir de la Saint-Patrick. Voilà. Mais le festival, en revanche, a été énormément intégré, suivi, et même avec un investissement important, même déboué, à l'étranger. C'est-à-dire que, comme on dit toujours, on n'est jamais prophète dans ton propre terre. Hein, et aussi, le festival, chaque jour, aujourd'hui, encore, doit expliquer pour qu'est-ce que nous faisons, pourquoi le faisons, et pourquoi, après 43 ans, nous sommes encore là. Voilà. Donc, c'est ça un peu notre histoire, et je crois que c'est une histoire de légitimité. Et de cohérence. C'est-à-dire que nous sommes légitimes parce qu'on a cherché la défense de la diversité, du droit à la différence et aussi de cette richesse que fait la diversité qui, à la fin, c'est une richesse pour tout le monde. Hein. Donc, ça veut dire que le festival apporte cette légitimité et aussi une image d'échange, de convivialité et pourtant des capacités de contacter les uns aux autres. Hein. Je crois que ça aide aussi à faire du festival un point de rencontre que malgré des difficultés, malgré la tension qu'on peut sentir parce que tout le monde parle à tous les deux minutes des crises, etc. Le festival est toujours là. Nous abordons nos problèmes d'une façon des idées et bon, d'une façon aussi bien ancrée vis-à-vis de l'avenir. Et surtout, nous croyons. Nous avons foi, nous avons un bon espoir et je crois que ça se transmet tous les jours.
D'accord, très bien. Comment ça fonctionne globalement au niveau de l'équipe de direction du festival? Parce que c'est quand même une très très grosse structure.
Oui,
et le
oui.
Festival Atacétique de Lorient, on peut dire que c'est parmi les 5 plus gros festivals de l'été en Bretagne. Et c'est probablement dans les 20 plus gros festivals de France. En termes de durée, c'est aussi important que le Printemps de Bourges, que les Francofolies.
Oui, exactement. Nous sommes un festival, un grand festival, et donc considéré comme un grand événement avec toutes les contraintes qui vont avec aussi. Le festival dure 10 jours et 10 nuits depuis l'année 76 déjà, c'est-à-dire qu'il a évolué, d'abord c'était un week-end, ensuite un gros week-end, et finalement à partir de 76 c'était déjà les 10 jours. Et le festival, c'est une association loi 1901, avec un président et un bureau qui nomme, et un conseil d'administration où appartient 35 personnes élus aux côtés. Il y a une partie qui sont des élus, des membres de l'association active, des bénévoles, des une partie qui sont des côtés, des personnalités qui peuvent aider au festival. À la fois, nous avons 11 permanents pendant toute l'année qui travaillent pour le festival. Donc, moi, en tant que directeur général, que j'ai les attributions de la coordination générale, la direction autant artistique qu'au point de vue d'entreprise, entre guillemets, c'est une petite entreprise, mais bon, avec des conséquences énormes aussi. Et donc, il y a cette situation un peu complexe d'avoir un nombre de bénévoles assez important, parce qu'ils sont 1100 bénévoles à l'heure d'aujourd'hui. 11 permanents qui travaillent autrement, dont nous préparons le travail, nous concevons chaque année notre festival. Mais en plus, il y a des conseils d'administration tous les deux mois, et il y a une réunion de bureau maxi chaque 5-6 semaines. Au bureau, il y a les présidents, vice-présidents, trésorier, et 4 personnes des conseils qui décidé le président d'incorporer. Et moi, en tant que directeur général, dont je suis salarié du festival, j'ai les attributions par délégation de la direction globale, et donc pour la prise de décision, mais ça n'empêche pas qu'évidemment, je dois me réunir pour dire, voilà, échanger, rendre compte, bien sûr, à mon bureau de temps en temps. Donc, c'est la structure.
Ouais.
Dans les aspects économiques du festival, toutes institutions confondues, à savoir la région, la mairie de Lorient, Lorient Agglomération et le département 56, avec une petite aide réduite du ministère de la Culture, ça fait un tiers du volume de notre budget. Le budget de cette année est 4 700 000 euros, après réduction d'un demi-million d'euros. Parce que l'année dernière, nous avons constaté une baisse énorme des tourismes autour de 17%. Sur le bassin lorientais, il y a une incidence de notre billetterie importante, entre que les festivals aient toujours cette capacité de se réinventer à chaque moment, dont la donnée de cette ligne de consolidation. C'est vrai aussi que c'est un festival qui se renoue et fait des démarches d'évolution assez importantes et à chaque fois. Et donc, comme je viens de dire, un tiers pour les institutions publiques, un tiers qui viendrait des produits dérivés, billetterie et échange de partenariat, produits dérivés et donc aussi du mécénat, et un tiers qui serait la billetterie, restauration et aussi des bars et boissons qui alimentent suivantes. Ce sont les trois volets. Ça veut dire que la présence de ce travailleur toute l'année, ce n'est pas uniquement pour faire face au problème d'organisation que nous trouvons toujours à dessiner une bonne programmation, sinon aussi à obtenir des ressources qui nous permet vraiment de boucler, établir ce budget que je viens de vous dire.
Oui, les ressources économiques pour pouvoir justement pérenniser et continuer le festival.
Exactement.
Et vous pensez à faire du développement avec des partenaires, essayer de trouver des entreprises qui participent encore plus avec vous dans
Festival. Nous avons pour ça les Club K. Les Club K, c'est un club d'entreprise que nous célébrons les 20 ans cette année, les Club K. Et donc, ces clubs permettent la rencontre des entrepreneurs, et aussi qu'ils peuvent faire des affaires entre eux, mais aussi a permis une approche au monde économique qui, il y a certains médecins ou partenaires qui actuellement nous suivent, suivent carrément. Et que cette année, par exemple, on a eu des années d'études déjà, un sponsoring important. Et cette année, nous aurons aussi un sponsoring et un coach plus développé parce que bien on vient de créer l'année dernière les fonds un pôle de fonds de dotation, c'est-à-dire des gens qui nous font confiance et qui déposent de l'argent pour des projets concrets à un niveau culturel. Ça, c'est nouveau et nous développons. C'est-à-dire, nous sommes très attentifs à comment développer une économie autonome, on peut dire, pas tributaire des subventions ou quoi qu'il soit.
Une année, au Festival interceltique, il y avait eu justement la diaspora celtique.
Ça a été il y a
deux
ans.
Justement, est-ce que dans ce cadre de ce fonds-là, vous allez faire marcher vos contacts
Oui, nous sommes un lien qu'on crée chaque année avec des partenaires. Imaginez-vous que nous sommes un lien avec des régions qui ont capacité de décision par eux-mêmes. C'est le cas des Pays Galles, les causes, les demandes, la Cornouaille, même une situation particulière, l'Asturien et le Galicien aussi. Mais nous mettons en route surtout un partenariat nouveau, de convaincre aux entreprises de participer avec nous sur la manifestation parce que les valeurs d'échange, d'identité sont porteurs aussi d'économie par eux-mêmes.
D'accord, tout à fait. Donc, directeur général depuis 2007, avril 2007, donc ça veut dire un peu plus de 5 ans. Successeur de Jean-Pierre Pichard, qui a été directeur donc du FIL, je pense, plus de 20 ans.
33 ans, exactement.
Voilà. Alors, un petit flashback pour continuer avec vous. Alors, maintenant, avec le recul, comment vous voyez ces premières années à la direction du FIL après 5 ans?
Bon, c'est un challenge, un pari important, parce que d'abord, voilà, le festival était énormément marqué par la personnalité et l'imprint, personne comme Jean-Pierre, qui avait construit tout un discours et toute une conception de la celtitude contemporaine, laquelle je partage, sinon je ne pourrais pas être ici, évidemment. Donc, c'est mon septième festival cette année, c'est-à-dire que j'ai 6 ans naturels de présence à Lorient, mais mon septième festival. Et donc, au début, évidemment, tu dois t'installer, faire une analyse de la situation, de comment on doit évoluer. C'est vrai que pour moi, n'était pas du tout nouveau le festival, parce que moi, j'étais impliqué dans les festivals depuis 1985. Pas oublier que c'était moi qui avais proposé la candidature des Asturies à appartenir à 100% au Festival interceltique de Lorient. Et c'était à ce moment-là que nous avions réussi que je me suis impliqué à travailler. Et donc, c'est un projet qui est toujours partagé, qui est toujours vu avec des très bons jeux. C'est pour ça que, même si connaissant tout ça, il faut découvrir par toi-même les rouages, on peut dire, de chaque structure, voir les points faibles, les points à développer, les changements qui sont envisageables. Et bon, voilà, c'est une première période. Après, nous avons passé à la célébration des 40 ans du festival. Donc, déjà, moi, j'ai commencé à organiser 100% de toute la programmation à partir des. En 2007, on est arrivé un petit peu, mais surtout à partir de 2008. Et finalement, la 40e édition a été les moments charnés aussi, parce que c'était la fermeture symbolique d'une période, l'ouverture d'une autre. Et la nouvelle période, c'était en 2011, avec l'année des diasporas, c'est-à-dire montrer qu'il y avait autre celtitude au monde qui ne passait pas uniquement que pour les 7 nations ou pays celtiques de la côte antique. Donc, faire découvrir et qu'est-ce qui s'est passé dans la migration actuellement, comment les gens voyaient la celtitude, comment la revisiter, n'était pas du tout un exercice de nostalgie, sinon justement une conviction, la conviction dès que la culture vivante, la culture, nous la réinventons tous les jours et qui surtout nous aurons toujours plus d'avenir que de passé.
La celtitude, oui, la musique celtique au sens le plus large fait partie des grandes musiques vivantes qui sont.
Exactement, a été les cas. Et je crois qu'elle est devenue un genre musical de plus en plus important.
Alors depuis justement, donc maintenant 6 ans, dites-nous ce que vous jugez comme des réussites, des satisfactions, des faits marquants et d'autres choses qui ont plutôt été des déceptions parce que c'est des événements qui n'ont pas forcément accroché le public.
Oui, non, mais le festival.
Les satisfactions, les moments de satisfaction.
Oui, bon, la satisfaction première, c'est que le festival continue et continue en attirant beaucoup de monde. C'est-à-dire, dans une période qu'on parle des crises, qu'on parle de difficultés, les gens viennent. Et surtout, les gens viennent, tu le vois en ville, certains commerçants ont dit, ouais, on voit un peu moins de monde, oui, mais on voit un peu moins de monde. En ville, peut-être, mais par contre, les gens suivent les spectacles. Ça veut dire que ce qui intéresse à la moyenne de nos festivaliers, c'est la programmation, c'est les choses que nous proposons. Sinon, ils peut-être ne viendraient pas. Ouais. Ou une demi-journée pour voir la curiosité de voir comment ça passe. Après, ils repartiraient. Donc, je crois que c'est la première des satisfactions. Autrement, et c'est difficile de lister, tu sais, tout ce que tu as fait pendant longtemps, dans ta tête. Et je crois que la célébration des 40 ans a été aussi importante parce que nous avions réussi à monter une expo et qui décrivait les 40 ans du festival. Qu'est-ce que nous avions fait? Pourquoi? Avec le but d'attirer l'attention à mon côté et faire aussi d'attirer l'attention et développer des concerts et des concepts de création. Donc je crois que cette année on a reformulé différents espaces, on a fait composer une création qui s'appelait Planète Celtique pour commémorer les 40 ans et surtout donner cette image, cette dimension des mondes contemporains ouverts. Et je crois qu'aussi pour moi c'était une satisfaction de faire découvrir ces réalités de l'immigration aux autres pays, parce que les gens qui sont en tradition d'immigrer, ils ont l'idée ciblée surtout autour d'eux. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont des immigrés, et surtout que quand on est issu d'une même géographie, il y a beaucoup de points en commun. Et donc, l'interceltisme a été un message qui parle des vitrines, des rencontres et des créations, et qui a été repris un peu partout ailleurs. C'est pour ça qu'existe des festivals interceltiques dans toute la francophonie, américaine par exemple, et dans d'autres pays qui n'étaient pas censés d'être participants à 100% de ces mouvements. Et cependant, et bon, ils se sont incrustés, ils ont suivi. Hein. Un exemple, c'est attendable de savoir qu'avec l'immigration irlandaise aux États-Unis, ok, voilà, on peut imaginer qu'il peut y avoir des endroits aux États-Unis qui peuvent trouver des festivals celtiques. On peut trouver aussi ça au Canada, parce qu'il y a beaucoup de gens de Nouvelle-Écosse venus d'Écosse, etc. Mais c'est pratiquement improbable d'imaginer un festival interceltique à La Havane, par exemple. Mais là-bas, il y a les côtés de l'immigration asturienne et galicienne qui a été énormément importante. Mais comme ils n'ont pas de moyens, alors c'était les gens de Nouvelle-Écosse qui ont aidé les Cubains à organiser un festival interceltique à La Havane. C'est-à-dire que cette idée de la fraternité des uns et des autres après la connaissance qui s'est faite par biais du Festival de l'Orient, les gens se sont découverts comme proches, et ça a provoqué un mouvement artistique et social, donc différent, autour de nos cultures et musiques différentes.
Faire connaître aux gens qu'ils ont des points communs, qui sont très anciens, qu'il faut renouer.
Tout à fait.
Et alors, deux, trois anecdotes du FIT qui vous ont marqué depuis que vous êtes directeur. Vraiment des anecdotes surprenantes, des situations.
Je sais pas. Franchement, c'est une sorte de questions que je n'arrive pas à répondre comme il faut. Comme anecdote. Et bon, je me souviens, oui, pas immédiatement, mais historiquement, des voir en période. Aujourd'hui, nous avons une chose qui s'appelle les alternances. C'est-à-dire qui est un groupe de citoyens qui aide les gens à dégager la ville après soirée, hein, très tard le matin. Et je me souviens qu'aux années 90, fin 80, l'ambiance que le festival était plus réduite. Alors les gens logés sur des lycées partout. Et un jour, des Écossais se sont perdus. Et tout à coup, c'était la police qui les a amenés. Mais alors, ce qui était drôle, c'est que tu voyais un paysan qui avançait, parce qu'ils avançaient en jouant à 3h du matin à l'époque. Et derrière, tu voyais les gyrophares qui tournaient. Ils étaient posés pour les policiers pour aller là-bas. C'était énormément drôle. Hein,
voilà, une image marquante.
Exactement, une image marquante, bien sûr. Et bon, sans doute il y aura d'autres, mais pour l'instant ça ne me vient pas à la tête. Hein.
Mais c'est vrai, comme ça, la chose, c'était un événement
marquant. Ouais.
Alors maintenant, l'actualité 2013, donc le pays invité, l'Asturie, les hautes terres de la Cétie du Sud. L'Asturie, votre région d'origine, puisque vous êtes issu d'un massif minier. Alors, votre ressenti, une fierté?
Oui, bien sûr. Et c'est la troisième année que le festival invite les Asturies comme pays à l'honneur. Et donc, les deux fois, j'étais le responsable de la délégation des Asturies avant. Donc, les deux premières fois, c'était moi qui m'en occupais aussi de tout coordonner. Maintenant, ça m'a fait drôle parce que je coordonne la globalité. Mais en même temps, évidemment, je travaille côte à côte avec les nouveaux délégués qui travaillent très bien d'ailleurs. Il n'y a qu'Issa Internes.
C'est vrai que ça doit faire assez drôle.
Ça fait drôle, mais ça fait du bien aussi, parce que tu as la responsabilité, et puis je commence bien de prendre mon poste de délégué il y a 3 ans, avant qu'il avait une autre personne. Alors je lui donne un coup de main, parce qu'on est un petit peu des choses qu'il peut améliorer, avec l'avantage aussi de la connaissance des terrains pendant longtemps, et maintenant aussi la capacité de pouvoir agir s'il faut de façon plus rapide et plus réactive de nos côtés.
Alors, au niveau d'équipe de direction, comment est choisi le pays invité et les artistes?
Mais les artistes, il y a deux volets toujours. Les délégués des pays ont la responsabilité de contacter les autorités locales, évidemment appuyées et soutenues par nous-mêmes, pour développer l'idée d'ambassade culturelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient ici, nous parlons toujours des terrains d'ambassade, des pavillons. Le pavillon, c'est un endroit que nous proposons, que nous paye les coûts de la coque, de la tente, des chapiteaux, mais pas du tout d'autres quantités pour s'installer. En revanche, ils doivent organiser une manifestation qui exprime leur pays, leur gastronomie, leur qualité et aussi les qualités et aussi l'espoir contemporain et des concerts de qualité. Et au moins un concert d'ouverture et un concert le lundi de la nuit des Asturies dans cette année. À part ça, nous avons nos programmations ordinaires où nous pouvons faire des choix d'artistes à niveau international qui conviennent au déroulement du festival, mais ne vient pas par le chemin de ces liens établis avec les pays à l'honneur. Et finalement, c'est un travail de recherche, d'analyse et surtout d'aller voir. Moi, personnellement, j'essaie de voir le plus concret possible de nos domaines quand il y a une promotion qui m'intéresse avant de prendre des décisions.
D'accord. Donc c'est effectivement, en termes de temps, ça demande combien de temps pour pouvoir faire ce travail-là? Une année, 2 années pour préparer?
Une année, c'est déjà juste. Ouais. Normalement, ce sont 2 ans. 2 ans avant, déjà, nous avons des contacts et la prévision est de peaufiner tous les projets au moins 1 an à l'avance. Par exemple, l'année prochaine, c'est à l'Irlande. Donc, j'avais commencé justement il y a 300 déjà, les premiers contacts, qui se sont renoués l'année dernière, qui sont cristallisés, on peut dire, l'année dernière. Et finalement, c'était que récemment que le ministère de la Culture irlandais nous a écrit en acceptant ce projet et cet engagement pour l'année 2014. Donc, c'est comme ça que c'est fait, dans les moyennes 2 ans. 2 ans. Et après, il faut compter la capacité de réaction et l'engagement d'autres parties, parce qu'il y a une convention que nous signons avec eux.
Donc, l'avenir, les années à venir, la prochaine édition, c'est en 2014, depuis l'invité d'Irlande. Mais au niveau, un peu plus loin, en regardant sur les 3-5 ans qui viennent, quelle vision vous avez du film? Évolution possible? Quelles sont les 3-4 idées maîtresses qui...
Nous sommes très attentifs à l'évolution des esthétiques que les propres générations cherchent. Il y a des évolutions, par exemple, il y a un mouvement de folk rock, parce qu'elle est trop en breton, par exemple. Ça peut avoir des choses intéressantes que nous comprenons. Et il y a d'autres manifestations plus traditionnelles, mais qui sont solides, hein, absolument. Alors voilà, on le fait pareil. Donc, je crois que nous avons devant, véritablement, un concept bien rodé, et que donc, il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Tout simplement, et être attentif et construire une programmation intéressante où la prise de risque doit être comptée, c'est-à-dire que soit par biais de la création, soit par les engagements avec des gens qui font des choses sympas, pas forcément standards. Et c'est ce que nous essayons de faire. Mais ça a été un peu l'histoire du fil. historiquement. La prise de risque, s'engage à faire des choses qu'après il faut tenir. C'est ça l'idée. Et continuer à travailler avec nos pays partenaires étrangers. Nous travaillons l'Irlande, je viens de vous dire, pour 2014. 2015, peut-être à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, peut-être à la Cornouaille ou l'île des Mains ensemble. Et il faut toujours savoir qu'aujourd'hui, il faut prévoir très en amont les éditions pour savoir d'où va sortir le financement.
Tout à fait d'accord. Ouais. Donc on peut dire que globalement, le Festival Interceltique, il repose sur des thèmes forts qui sont bien ancrés, qui conviennent justement aux festivaliers et qui tiennent aussi compte donc à la fois des aspects bien traditionnels qui sont recherchés par des festivaliers et des aspects plus ou moins modernes par d'autres.
Exactement.
Alors, donc, le mot de la fin, en conclusion, pour faire venir les gens au festival, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ?
Bon, venez Lorient, vous ne serez jamais dessus.
Ben voilà le mot de la fin. On vous remercie, Lisandro Lombardia.
Merci à vous.